Attention, je viendrai, c'est au futur, à Montréal, hein, c'est pas le conditionnel. Hein. Antoine,
c'est ça.
C'est l'histoire d'Antoine Dugard, pardon, qui a à peu près la cinquantaine, il est professeur, il est divorcé, il a un fils, il ne le voit plus. Alors, racontez-nous un petit peu, c'est autobiographique ou c'est un personnage que vous avez inventé totalement?
Alors, c'est ça qui est passionnant dans le roman, c'est qu'on part de données personnelles, parce qu'il est très difficile d'écrire sur quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Et puis, à partir de là, ça se déploie, ça se développe. Et au bout de quelques jours, le personnage devient quelqu'un d'autre que vous. Et alors là, c'est son histoire qui est en train de se raconter. Mauriac, tiens, je reviens un instant à Mauriac, il avait cette habitude quand il écrivait ses romans, il partait dans un très très grand hôtel parisien, le temps que ça démarre, le temps que le personnage prenne son autonomie et son envol. Eh bien, je me suis un peu inspiré de cette méthode de travail, donc je suis parti, je suis professeur, oui, j'ai à peu près cet âge-là, oui, j'ai sans doute un fils, mais pour le reste, nous sommes quand même dans une fiction, nous sommes quand même dans de l'imaginaire.
Alors, il y a un divorce qui se passe pas trop bien, il va sur les sites de rencontres, il a son frère aîné qui n'a pas la même vie, hein. Et puis, il écrit également, hein. Il rêve de roman, d'un grand roman, je crois, c'est cela. Hein.
Oui, c'est ça, il rêve de ça. Il avait, quand il était très jeune, fantasmé la France, et la France, pour lui, c'était la langue, c'était aussi, évidemment, la littérature, c'était aussi la politique, et il se rêvait dans de grands combats politiques, avec de grands livres à écrire, etc. Ça, c'était tout son imaginaire qui lui faisait avoir, comme dirait l'autre, une certaine idée de la France.
Alors, ça commence un petit peu pessimiste, mais on peut pas dire ça va s'améliorer, hein.
Oui, il me semble qu'il est au fond du trou. Il va arriver des choses difficiles pour lui, très difficiles. Mais ce que j'ai essayé de faire, moi, c'est... Vous savez, on est dans une époque, je ne sais pas si vous penserez comme moi, mais on est dans une époque où qu'on aille chez le coiffeur, qu'on aille dans un restaurant, dans un café ou un magasin, aussitôt que nous sommes sortis, on nous demande sur notre portable de l'évaluer, de mettre une note. On veut l'excellence. Il y a des concours partout à la télévision. Il faut réussir, il faut être le meilleur. Il faut un physique irréprochable, il faut être parfait. Et moi, j'ai essayé l'esquisse d'un anti-héros. J'ai voulu voir ce que pouvait donner aussi un homme qui ne se retrouvait pas tout à fait dans la société et qui n'était pas élu par elle. Alors comment est-ce qu'on se débrouille quand on n'est pas dans l'élite? Comment est-ce qu'on fait pour vivre dans une société où il n'y a plus de sens collectif, où il n'y a plus de sens profond et où on n'est pas dans l'élite? C'est ça que j'ai essayé de faire.
C'est un peu vrai, ouais, c'est ce qui se passe, ouais, c'est vrai. Ouais. Alors il va être l'établissement où il travaille menace de le virer, hein, et puis il va lui arriver un accident et puis il est à l'hôpital.
Oui, c'est ça. Et alors, comme toujours dans sa vie, comme il avait fantasmé la France avec des livres, comme il fantasmera Montréal avec des livres, comme il fantasme les femmes avec les sites, eh bien là, il va se mettre à lire, à repenser à des livres lus, et il va s'identifier en quelque sorte à des choses lues. Et à chaque fois, sa vie personnelle, il la relie à l'aune des livres, à l'aune de la littérature. C'est un homme qui est pleinement dans l'imaginaire et qui choisit toujours de vivre un peu par procuration.
Et puis une nouvelle vie va commencer, il veut amener son frère avec lui aussi, hein.
Oui, ton frère est vraiment une espèce d'idéal, de modèle, de fraternité. C'est un grand frère protecteur qu'il aime par-dessus tout, qu'il a protégé toujours dans sa vie. Et comme lui, ses frères a peur de sa routine, a peur de sa vie, et qu'il aime par-dessus tout son petit frère, eh bien, ils envisagent tous les deux une nouvelle vie. Et ça leur paraît possible sur le plan matériel, mais est-ce que ce sera possible concrètement? Ça, je laisse le suspense.
Voilà, il faut laisser lire parce que ça se développe. Et puis, on ne dit pas plus parce que sinon, on va lâcher des infos. Hein.
C'est ça, on va divulgâcher.
Voilà, divulgâcher, j'aime bien le terme. Alors, comme on disait, hein, ça commence par le pessimisme, mais ça va s'orienter vers de l'optimisme.
Oui, je pense. Moi, c'était une dégageure du livre. C'était comment ce qui apparaît comme un homme au fond du trou, une espèce de dépressif, un type à qui rien de réussi, comment cet homme-là va-t-il se redresser? Et vous parliez d'éducation nationale, vous parliez des déboires qui vont lui arriver, il va quand même se rebeller, il va pas se laisser faire. Il y a ce fils dont on a parlé, bah, il va se battre. C'est un homme qui va quand même se redresser, qui va être vent debout et qui va retrouver une nouvelle source de jouvence, une nouvelle façon de réinventer sa vie.
Voilà, donc je reviendrai à Montréal, de Claude Framont, à lire absolument. Ça se lit d'un coup, hein. Faut vraiment lire, on a envie de découvrir la suite. Hein.
Merci beaucoup, c'est très gentil.